Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business présente Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie. Audrey Tcherkov, Thomas Asportas, Good Evening Business.
19h sur BFM Business, bonsoir et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans la deuxième heure de Good Evening avec en direct jusqu'à 20h Audrey Tcherkov. Rebonsoir Audrey.
Rebonsoir Thomas et rebonsoir à tous.
Dans l'actualité ce soir, c'est le sujet du jour évidemment. Ouais. Le jour J pour Bruno Le Maire, le ministre a présenté ce matin son tant attendu projet de loi de simplification pour les entreprises. Est-ce que ces 50 mesures sont à la hauteur des attentes des patrons, des attentes très fortes des chefs d'entreprise? On décortique tout ça en direct jusqu'à 20h Audrey.
Oui, on parlera aussi avec nos experts de ce dossier explosif qui est Casino, avec le plan social enfin annoncé ce matin, entre 1200 et 3200 postes supprimés. C'est beaucoup, c'est le plus grand plan social en France depuis le début de l'année. Et puis si ça va mal chez Casino, en revanche, ça va bien, Thomas, dans l'ensemble, sur le front de l'emploi. C'est ce que nous dit en tout cas l'enquête annuelle de France Travail qui prévoit encore de très nombreuses embauches cette année malgré la conjoncture.
Ouais, on va essayer de comprendre pourquoi l'emploi résiste à tout en France. On posera la question à nos experts ce soir. Jean-Marc Sylvestre, éditorialiste à Atlantico, Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne, et Benjamin Coria, professeur de sciences économiques à Paris 13.
Voilà, un débat animé.
Ben oui, c'est bien la moindre
chose. A priori.
C'est parti.
À tout de suite.
Votre rendez-vous avec Sage. Sage, la gestion intelligente qui réinvente la finance.
Good evening business, le journal.
Et donc, ça y est, c'est le jour J pour Bruno Le Maire qui a présenté ce matin à Bercy son projet de loi pour simplifier la vie des entreprises. 50 mesures pour débureaucratiser, pour supprimer au maximum la paperasserie dans les entreprises. Le ministre s'est expliqué ce matin au micro d'Edwige Chebrion à Bercy et il explique pourquoi ces mesures devraient marcher alors que tous ses prédécesseurs se sont cassés les dents pour simplifier en France. On l'écoute.
Toutes les propositions viennent du terrain. Elles viennent des patrons de TPE, de PME, des artisans, des commerçants, des indépendants. C'est remonté du terrain. Il y a eu des réunions publiques et une consultation très large par voie numérique qui nous a permis de faire attention à ce que nous disaient les patrons, les chefs d'entreprise, les indépendants. La deuxième chose, c'est que ce n'est pas un choc en une seule fois où on pense qu'on va tout régler. Ça n'existe pas. Ça va être un mouvement de fond régulier. Et chaque année, vous aurez un nouveau texte de simplification pour s'assurer qu'on continue à avancer dans la bonne direction. Puis le troisième élément de méthode qui est nouveau, c'est ce fameux test PME qui nous a été proposé et demandé par les PME. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y aura une nouvelle norme, une nouvelle loi, une nouvelle réglementation, on vérifiera que ça ne coûte pas trop cher pour les entreprises.
Voilà, Bruno Le Maire au micro d'Edwige Chevrillon. Interview à retrouver en exclusivité, en intégralité sur notre site internet et notre appli BFM Business. L'autre actu du jour, on vous le disait dans le sommaire, c'est Casino. Casino qui a dévoilé ce matin son plan de réorganisation, son plan social. Bonsoir Pauline Tadevin. Il y aura moins de suppressions de postes que ce que craignaient les syndicats, mais le plan social reste quand même très douloureux, Pauline.
Oui, ces derniers mois, les syndicats avaient eu l'occasion de le dire. Ils craignaient jusqu'à 6000 suppressions d'emplois sur la totalité du groupe. Ce sera au maximum 3200, nous dit la nouvelle direction de ce groupe Casino, sur le siège historique de Saint-Étienne, qui compte actuellement 1564 salariés. Sans les CDD, un millier d'emplois est préservé, 554 disparaissent. Mais en tout, sur les fonctions siège, 1293 suppressions nettes vont avoir lieu. On compte donc les sièges de Franprix et de Monoprix. En région parisienne, ce qui se passe, pour être très clair, c'est que pour préserver le siège de Saint-Étienne, dont la direction avait dit qu'il allait préserver la pérennité, maintenir la pérennité, Bruno Le Maire d'ailleurs,
engagement pris, merci,
avait annoncé qu'il serait très attentif à cela. Pour préserver Saint-Étienne, on y transfère des dossiers qui étaient gérés jusque-là dans les sièges de Monoprix et de Franprix en région parisienne. Ces sièges sont donc touchés par ricochet. À cela, il faut ajouter des suppressions de postes dans les magasins qui n'ont pas encore trouvé preneur et aussi dans les entrepôts. On nous précise que ces chiffres-là peuvent encore évoluer si les magasins, par exemple, finissent par être revendues. Plusieurs réunions vont donc être organisées à partir de maintenant avec les syndicats pour préparer un plan de sauvegarde de l'emploi qui doit être finalisé, nous dit-on, au mois de septembre. En parallèle de ce plan, la nouvelle direction de Casino confirme aujourd'hui qu'il prévoit de réinvestir 1,2 milliard de dollars sur 3 ans. Il compte notamment embaucher des caissiers et des caissières dans les magasins qu'il garde.
Merci beaucoup Pauline Tadevin. Et puis par ailleurs, Casino a aussi confirmé ce matin la création d'une nouvelle centrale d'achat avec Intermarché et Auchan sur 10 ans pour tenter de créer la première centrale d'achat en France dans l'alimentaire. 19h05, on s'intéresse maintenant à l'actualité du secteur de la santé avec l'Europe qui lance aujourd'hui une alliance du médicament pour relocaliser au maximum la production sur le continent de médicaments critiques et pour lutter contre les pénuries qu'on connaît depuis la pandémie. Hélène Cornet.
Il y a une alliance européenne pour les batteries électriques devenue un impératif stratégique. Il y en a une désormais pour les médicaments critiques construite sur le même modèle. Alliance qui réunit toutes les autorités de santé, les industriels et les associations de patients. C'est le dernier échelon du plan de bataille de Bruxelles pour éviter les pénuries de médicaments, 600 molécules environ. Alliance qui pourrait donc sécuriser l'approvisionnement lors de commandes groupées, un peu à l'image de ce qui a été fait lors de la pandémie, rehausser le niveau des stocks obligatoires ou encore favoriser les relocalisations en Europe. Sur un système d'entraide entre pays, un État pourrait par exemple produire le principe actif et un autre le produit fini. Mais la Commission le sait, elle a finalement peu de marge de manœuvre concernant ces médicaments, essentiellement des génériques et essentiellement produits en Asie. Pour les industriels d'ailleurs, la seule vraie réponse aux pénuries est surtout de relever les prix en Europe pour rentabiliser au mieux leur production et les inciter à relocaliser.
Hélène Cornet, on revient à présent sur les très mauvais résultats publiés hier soir par Tesla. Vous l'avez vu, une chute du bénéfice de 55% au premier trimestre et pourtant, le titre Tesla aujourd'hui est en très forte hausse à Wall Street. Visiblement, Elon Musk a réussi à rassurer les investisseurs en annonçant la sortie plutôt que prévue de modèles abordables et l'arrivée dès cet été des prototypes de ces fameux robotaxis. Justine Bassogne.
Le robotaxi est l'avenir de Tesla. C'est la conviction d'Elon Musk dans les cartons depuis des années. Les cybercabs, comme il les appelle encore, seront dévoilés le 8 août prochain. Leur production démarrera fin 2025. Les livraisons devraient-elles débuter l'année suivante? Elon Musk envisage même que les propriétaires de Tesla, 100% autonomes, les fassent fonctionner comme taxis quand ils ne les utilisent pas. Un pari que certains jugent risqué, car si certains robotaxis, ceux de l'américain Waymo par exemple, circulent déjà dans les rues de San Francisco ou de Los Angeles, d'autres s'y cassent les dents. C'est le cas de Cruise, filiale de General Motors, qui s'est vu bannir de Californie après un accident et qui a dû se séparer d'un quart de ses effectifs. Tesla n'est pas beaucoup plus heureux avec ses systèmes de conduite assistée. Le constructeur a dû récemment rappeler 2 millions de voitures car son autopilote était jugé défaillant. Selon le Washington Post, il aurait été responsable de 40 accidents mortels depuis 2016. Tout cela n'empêche pourtant pas Elon Musk de penser qu'à terme, ces robotaxis généreront plus de profit que ces voitures électriques.
Justine Vassogne. Et puis pour finir, il se passe aujourd'hui un petit événement dans le monde de la tech, puisque c'est un Français qui prend la tête d'une des plus grandes entreprises d'Europe, ASML. Bonsoir Frédéric Simotel.
Bonsoir Thomas.
C'est quand même pas rien, un Français va diriger cette entreprise devenue incontournable dans le secteur des semi-conducteurs.
Oui, il s'appelle Christophe Fouquet, BFM Business. L'avait rencontré il y a 2 ans, il était alors directeur commercial. Voilà. Ça fait 16 ans qu'il est dans l'entreprise. Voilà, on est toujours en avance. Premier Français à la tête d'une entreprise d'envergure internationale, et vous l'avez dit, une entreprise qui compte aujourd'hui dans l'univers du microprocesseur. On a les Nvidia, les Intel, les Global Foundries. Et bien, il faut compter sur ASML. Alors ASML, ils sont tout début de la chaîne. Ils reçoivent les matières premières, ils reçoivent les plaques, et c'est eux qui vont imprimer avec leurs machines qui sont immenses, les cartes sur lesquelles on va mettre ces processeurs. Et ils ont une très grande avance parce qu'ils peuvent descendre jusqu'à entre 2 et 7 nanomètres. Ce sont les spécialistes mondiaux dans le domaine. Alors pour vous dire quand même la taille d'une machine, Intel en a acheté une, c'est 6 mois pour l'emmener aux États-Unis en 2 compartiments, c'est 150 tonnes, c'est la taille d'un bus, 6 mois pour la paramétrer. Donc vous voyez, quand on achète une machine, on commence à la voir au bout d'un an. Alors il arrive quand même, Christophe Fouquet, à un moment un peu charnière aujourd'hui, puisque il y a quelques alertes. On a vu qu'il y a un petit trou d'air pour ASML parce que les clients ont acheté moins de machines cette année. Bien oui, ils anticipaient un peu moins de processeurs, moins de ventes de processeurs, mais il se veut rassurant. Il dit que 2024 ça va repartir de plus belle, et puis ils vont sans doute bâtir une autre usine. Il y a quelques jours il y avait une un petit chantage fait avec la ville d'Eindhoven en disant, et avec le gouvernement, hollandais en disant non, si vous ne faites pas un effort fiscal, on ne s'installera pas en Hollande, on ira peut-être en France, tiens, pourquoi pas. Bon, finalement, c'était vraiment un chantage. Ils vont
bien sûr
rester à Eindhoven.
Ils restent à domicile. Merci beaucoup, Frédéric Simotel. 19h10, on va sur les marchés. Les marchés, je vous redonne la clôture du CAC ce soir à Paris. On abandonne un tout petit peu de terrain. Le CAC 40 se replie, se replie de 0,17% à 8091 points. Rebonsoir Étienne Brack.
Bonsoir Thomas.
Comment ça se passe à Wall Street aujourd'hui?
Écoutez, c'est du rouge avec un Nasdaq néanmoins qui arrive à se stabiliser hein, grâce notamment à Tesla hein, qui gagne 10% avec sa nouvelle voiture mystère qui devrait sortir dans les prochains mois, qui gomme un petit peu des résultats en dessous des attentes. Vous avez également Texas Instruments qui gagne quasiment 6%. Il y a un instant, on parlait d'ASML. Bah là, Texas est très confiant hein, grâce notamment à une reprise en Chine de l'électronique grand public. Donc après une période compliquée hein, suite à la pandémie, beaucoup de stocks, apparemment ça se reprend dans le secteur des semi-conducteurs. Boeing qui gagnait quasiment 2% à l'ouverture avec une perte moins forte qu'attendue et finalement dans le rouge avec un titre qui perd quasiment 1%. Et puis en tâche de fond, vous avez également toujours des tensions géopolitiques avec, ça y est, aujourd'hui Joe Biden qui a signé un décret concernant TikTok hein. Il y a plus que quelques semaines maintenant pour la maison mère Biden pour changer de propriétaire. Sinon, TikTok sera interdit aux États-Unis. Donc, bien sûr, tout cela est propice à quelques prises de bénéfices après deux très belles séances aux États-Unis, que ce soit hier, mais aussi lundi. Vous avez le Dow Jones qui cède 0,3%, moins 0,2% pour le S&P, quand le Nasdaq est parfaitement stable.
Merci beaucoup, Étienne Brack. 19h11, on marque une pause et on retrouve Audrey Tcherkov et nos experts. On débat et on décrypte en direct jusqu'à 20h. Donc, good evening.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
19h13 sur BFM Business, bienvenue dans les experts du soir. Jean-Marc Sylvestre, éditorialiste à Atlantico, merci d'avoir rejoint le plateau. Benjamin Coria, professeur de sciences économiques à Paris 13, bonsoir. Et Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Marianne qui titre cette semaine cette enquête « L'avenir radieux des pétroliers ». On le montre à
Marianne, nouvelle formule.
Voilà, avec une enquête sur Total que je vous conseille de lire.
Bon. On remonte ça tout de suite à Emmanuel Le Chypre après l'émission.
Voilà, exactement. Alors, c'est en kiosque. Et oui, on commence avec ce projet de loi de simplification tant attendu, présenté par Bruno Le Maire ce matin. C'est un peu son bébé de 2024, même si il en parle depuis 2 ans. Donc 50 mesures pour en finir avec la paperasserie qui coûterait 3 points de PIB. C'est lui qui le dit par an à l'économie française, c'est beaucoup. Est-ce que vous êtes convaincu par son plan? Parce que je vous rappelle que c'est un sujet qui a fait l'objet de nombreux engagements, mais aussi de textes de loi depuis un moment, du choc de simplification voulu par François Hollande à la loi Pacte, ça n'a jamais marché. Franck,
Moi, je pense que c'est parfaitement légitime de vouloir simplifier la vie des Français. Je constate, d'un point de vue de la communication, on ne va pas trop s'attarder, mais d'insister beaucoup sur les fiches de paie, où on enlève des lignes, mais on ne rajoute pas des ronds, c'est pas très malin, parce que les Français, quand ils regardent leur fiche de paie, ils sont pas angoissés par le fait de ne pas comprendre certaines lignes, mais plutôt par ce qui est en bas à droite.
Oui, mais justement, on rajoute pas des ronds. Si on récupère 3 points de PIB par an, ça va forcément avoir un effet de ruissellement sur l'ensemble
des
acteurs de l'économie.
C'est vrai, mais dans un premier temps, c'est vrai que c'est peut-être pas la fiche de paie qui peut-être était la première des mesures à prendre, mais à la rigueur, je veux bien lui faire ce crédit. Moi, ce qui me gêne, c'est non pas le projet, mais c'est le commentaire du projet. Parce que le commentaire du projet, peut-être on va y avoir droit avec mon voisin en face.
Lequel?
Jean-Marc.
Oui, parce qu'ils ne sont pas tout à fait du même bord.
Absolument. Donc Jean-Marc, et c'est parfaitement son droit, et c'est très bien, hein, mais ça sera de dire, vous comprenez, la France est suradministrée, il y a trop de paperasses, c'est bien la preuve qu'il y a trop d'administration. Moi, je vous conseille un livre de David Gruber sur les bullshit jobs, où il développe l'idée, c'était un grand chercheur qui est malheureusement décédé, et qui disait que ceux qui avaient inventé cet empire du process, cet empire de la norme, du ceinture et bretelles, du sur PowerPoint, de le fait de au fil des responsabilités de le diluer dans un immense magma de procédures, eh bien, ça vient du privé, ça vient du néolibéralisme, ça vient de toute cette école un peu du monde des consultants, qui a été appliquée avec détermination par la haute fonction publique. Donc, ce n'est pas cette simplification qui est légitime, n'est pas le fait d'une suradministration. Elle est le fait, au contraire, paradoxalement, je dirais, d'une importation des méthodes du privé et des grandes entreprises qui administrent de façon aveugle.
Je ne suis pas du tout d'accord, mais allez-y, Thomas.
Haute fonction publique, McKinsey, même combat. Jean-Marc Absolument. Sylvestre, Franck a planté le décor. Pour revenir de tout ça, est-ce que les 50 mesures proposées par Bruno Le Maire sont bonnes?
C'est à moi la question?
Oui, c'est à vous.
Non, parce que la réponse qu'il a faite pour moi est à moitié fausse.
Oui, non mais
réagissez, et après, qu'est-ce que vous pensez de ces mesures? On a quand même envie de savoir ce que vous, les experts,
pensez. Tomber sur le projet, parce que c'est toujours bon à prendre, 50 mesures de simplification. Contrairement à ce qu'on dit parfois, ça peut réussir quand c'est bien fait. Audrey, je vous rappellerai qu'on a réussi une grande épreuve de simplification avec l'impôt à la source.
Oui.
Et je me souviens qu'à ce moment-là,
pendant
un an, on a tapé sur le dos du ministre de l'économie
qui s'en est très bien sorti,
et Gérald Darmanin, il a eu très chaud,
et franchement qu'il a eu très chaud, et voilà. Bon, et ça a marché j'allais dire du fond
du
Dieu,
ça
a bien marché sans problème, alors que tout le monde pensait, je me souviens encore de certains articles, je me souviens plus si vous étiez déjà à Marianne ou pas, où c'était le grand foutoir. Bon, mais il a pris des précautions quand même, il a négocié, contrairement à ce qui s'était passé auparavant, il a négocié avec tous les chefs entreprise, donc du côté des PME, du côté du patronat, on accepte un certain nombre de simplifications. Non, le grand défaut du truc, c'est que donc c'est cohérent. Et si ça marche, tant mieux. Mais sauf que c'est pas en simplifiant les lignes sur le bulletin de paye qu'on simplifie le modèle social. Là, vous aviez raison. Et c'est pas en simplifiant les procédures qu'on va alléger l'administration. L'administration derrière, elle reste. Ce pays, il a besoin d'un allègement global de tout l'État et de toutes les fonctions de l'État. Nous sommes avec un État qui est obèse. Et il est tellement obèse qu'il refuse de maigrir.
Oui.
Il refuse de maigrir. Ah, il va pas bien. Ouais. Il va pas bien. Il arrive pas de marcher. Il a du mal. Il a de l'arthrose partout. Mais il refuse de se faire soigner. Et se faire soigner, c'est de faire de la gymnastique, c'est de maigrir, c'est de diminuer le périmètre de l'État, c'est de faire en sorte qu'on s'inspire un peu des process du privé. Je veux même pas dire qu'on change de statut.
Ouais.
Mais dans le privé, il y a la concurrence. C'est quand même assez stimulant, la concurrence, même dans le
service
public.
Non, mais c'est pour ça, voilà, exactement.
Et ça, c'est absent.
Ce que vous ne voyez pas, c'est que cette complexité, elle vient du privé.
Mais non, Franck, attendez,
vous êtes sérieux ou pas ?
30 secondes à ça.
Le privé, il cherche de la productivité.
Franck, parce que vous pensez aux grandes entreprises, vous pensez aux entreprises cotées. Vous savez que le tissu économique... Oui, mais le tissu économique français, la réalité, c'est quoi ? C'est en grande partie des TPE et des PME. Est-ce que vous pensez que les patrons de ces petites et moyennes entreprises qui essayent, par tous les moyens, de boucler les fins de mois, qui font face encore à la pénurie de main-d'œuvre, qui est une réalité, ont les moyens de dépenser 8 heures par semaine, et c'est colossal, pour répondre au cadre réglementaire français.
Si le projet fait économiser ne serait-ce que 2 heures par semaine à des petits patrons, effectivement, qui se demandent à chaque fin de mois s'ils vont poursuivre leur activité avec des responsabilités sociales et parfois même territoriales importantes, eh bien, ça sera très bien comme ça. Je parlais évidemment des grands groupes du CAC 40 qui se sont finalement administrés. Voilà.
Benjamin Coria.
Écoutez, moi, mon point de vue, c'est le suivant. Qu'on prenne des mesures de simplification de la vie à la fois des Français et des entreprises, moi, je trouve que c'est une très bonne chose. J'ai aucun souci avec ça. Je suis plutôt très favorable, parce que je veux dire, y compris dans nos vies, nous, citoyens, on voit bien. Il y a certains moments, c'est Kafka, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors maintenant, mes deux réserves, si je peux dire, c'est que je ne crois pas du tout que ça aura un effet ne serait-ce que significatif sur la productivité. Ça, j'y crois pas.
Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que je pense que le défaut de productivité, c'est pas du tout là qui gît. Vous voyez, c'est quoi une mesure administrative ou 50 mesures administratives lorsque, après 2008, dans un moment de récession, le souci principal qu'on a, pour la BCE, c'est de revenir le plus vite possible à l'équilibre. Ce qui nous a fait perdre un nombre de points de PIB absolument incalculable et qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, par comparaison avec les États-Unis qui ont fait l'inverse, qui ont fait de la relance, on a perdu le double de ce qu'a obtenu les États-Unis. Donc, je veux dire, c'est un problème de, comment dire, du sparadrap sur une jambe de bois. Le vrai problème de compétitivité, il n'est pas là.
Oui.
Ça, c'est mon premier souci.
Ouais, ouais.
Mais par ailleurs, je suis tout à fait favorable. Je crois que c'est très clair. Voilà. Aussi bien pour le petit patron qui aura beaucoup moins ou le paysan qui aura beaucoup moins de papier à remplir que pour les individus. Ça, c'est ma première réserve. Ma deuxième réserve, c'est que il va falloir regarder les mesures un peu de près. Parce que il y a des normes, notamment en matière d'alimentation, en matière de construction, sur lesquelles on a l'impression qu'ils veulent essayer de les supprimer.
Contourner.
Et là, moi, je pense qu'il faut faire extrêmement attention. Voilà. Donc moi, si vous voulez, je suis absolument pour, tout à fait favorable.
Non.
J'ai... si.
Non. Non. Mais vous dites que c'est pas le sujet. Quoi.
Vous permettez.
Non,
je dis qu'il y aura pas d'effet de compétitivité.
Voilà. Donc vous dites que vous êtes pour, mais que ça ne va servir à rien.
C'est très clair. Parce que par rapport à d'autres mesures, c'est dérisoire à ce qu'il faudrait faire. Et je dis deuxièmement qu'il y a un certain nombre de domaines où il faudra faire attention. Et là, oui, je suis opposé.
Je suis désolé. Non.
Mais Benjamin Coria, il pose la bonne question. Si Bruno Le Maire fait tout ça, c'est pour qu'à la fin, ça fasse de la croissance.
Oui, bien sûr.
Ça va faire de la croissance
et de la productivité.
Bien sûr. Est-ce que ça va faire de la croissance, ce projet de loi,
Ça ne fera sans doute pas de croissance si on ne réussit pas à réduire l'obésité de l'administration et de l'État. Et du personnel de l'État. Non, je ne suis pas d'accord parce que lui, il veut continuer d'augmenter l'obésité de l'État.
Non, pas du tout.
Il est totalement keynésien en disant on aurait dû faire du keynésianisme comme les Américains, on aurait dû distribuer de la monnaie, de la demande, et regardez, on aurait un taux de croissance très bien. C'est ça que tu dis.
Je dis que effectivement la politique monétaire et macroéconomique nous a fait perdre la moitié de la croissance américaine.
Je le répète.
Et d'ailleurs l'ensemble des macroéconomistes sont parfaitement d'accord là-dessus.
Je suis pas sûr qu'on était capable de supporter trois fois l'endettement que nous avons aujourd'hui, ce que font les Américains.
Non,
mais ils ont une monnaie unique, Jean-Marc. La comparaison est compliqué. Oui, d'accord. Mais avec une puissance un peu différente.
C'est l'unanimité sur le fait que l'Europe a eu une politique absolument contraire à ce qui était nécessaire. Eux-mêmes sont d'accord avec ça.
Non, mais d'accord.
Je vous enverrai les documents.
Non, mais juste, de manière très pratico-pratique, rester aujourd'hui à jour de l'évolution du cadre réglementaire en France, c'est quand même le vrai sujet des entreprises. Donc Bruno Le Maire l'a dit ce matin, c'est estimé à 8 heures par semaine, ce qui est quand même beaucoup. Pour passer par les entreprises sur tous ces sujets administratifs. Alors, aujourd'hui, quand on veut changer l'adresse du directeur général d'une société, il faut donner la date et le lieu de naissance du commissaire aux comptes. Il y a encore 5 ans, c'était un formulaire avec 4 cases. On a besoin que les chefs d'entreprise passent ce temps-là à développer leur modèle, à aller chercher des clients. Donc ça va forcément avoir un impact sur la croissance.
Alors
peut-être mesuré, mais en tout cas sur la productivité.
Oui, c'est mesurable sur la productivité. La digitalisation sert à ça.
Enfin, moi, je maintiens mon point de vue. Je pense que c'est nécessaire. Il y a aucun souci là-dessus. Mais je pense que ça n'aura pas ce genre de mesure-là n'aura pas du tout l'effet escompté sur la croissance, parce que ce qui détermine la croissance, c'est des choses beaucoup plus lourdes que ça.
Voilà. Bon. Ce qui détermine la croissance, c'est la liberté des chefs d'entreprise, c'est leur capacité d'offrir au système des produits, des innovations, et de faire en sorte
ça en fait partie.
Franck De Dieu, Bruno Le Maire a quand même dramatisé un petit peu son propos ce matin. Il dit l'Europe risque un déclassement à cause de la bureaucratie.
Oui, non mais ça.
Voilà, c'est à cause de l'administration et de la bureaucratie que l'Europe risque d'être déclassée, de décrocher par rapport aux États-Unis et la Chine.
Dans l'interprétation de cette,
il en fait trop ou
non mais dans l'interprétation de cette mesure, on voit bien, et notamment dans ce débat un peu vif, que se mêlent des désaccords sur des sujets qui n'ont pas le même périmètre.
Oui.
On peut, Audrey, dire c'est une mesure microéconomique qui est utile, et qui est même utile pour le moral des gens au quotidien. Ouais. Parce que c'est vrai que remplir de la paperasse est quelque chose d'usant.
Personne n'aime ça.
Mais tout ça s'insère quand même dans une logique macroéconomique qui n'est pas tournée vers
bien
la croissance.
Bien sûr.
Vous dites, Audrey, que les patrons, ils pensent beaucoup à se faciliter la vie et tout ça. Vous avez raison, mais en ce moment où on vit un retournement de conjoncture, ils pensent aussi à remplir leur carnet de commandes. Ils pensent aussi à pouvoir payer.
Mais justement, il faut du temps pour ça, Franck.
Oui, absolument. La question est donc, comment articuler ce sujet microéconomique, où on est à peu près tous d'accord, et l'insérer dans quelle politique macroéconomique ? Là où Benjamin a raison, je crois, c'est que, au niveau des effets, il n'y a pas photo, pardonnez-moi cette phrase un peu triviale. C'est-à-dire que les économies, y compris psychologiques d'ailleurs, de cette simplification, ne sont rien à côté de ce choix fondamental qui a été fait il y a quelques mois, de se dire, pour rembourser la dette et remettre les comptes au carré, nous nous éloignons de la politique américaine de relance par la demande et nous décidons de nous lancer dans une politique austéritaire. Mais peut-être que dans...
Là, vous parlez du plan d'économie.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que vous ne pouvez pas les distinguer. Et d'autre part...
Il va arriver, ils vont arriver, les 50 milliards, Jean-Marc.
Oui, à vrai dire, Jean-Marc, soyons vraiment objectifs là-dessus. Sans être...
Je n'arrête pas de l'être.
Sans vouloir, je dirais, mettre en scène nos propres désaccords, on peut le faire, et on le fait d'ailleurs bien volontiers. Oui. Non, on le fait bien volontiers. Je pense que le sujet clé, c'est quand même celui-ci. C'est-à-dire que on peut demain dire « je défends l'austérité » et on est tous d'accord pour dire qu'il y a une forme de purge ou d'effet sur l'emploi qui se feront par la politique de l'offre dans 3-4 ans, on en récoltera les fruits. Moi, cette thèse n'est pas la mienne, mais je l'admets, cette thèse. Mais ce que vous ne pouvez pas dire, c'est de dire cette politique d'austérité, dans 3 mois, on récolte des fruits. Ça, c'est pas vrai. C'est historiquement jamais le cas. Après, on peut débattre d'accord. Est-ce qu'une purge, ça prend 5 ans? Il y a une génération, 5 ans. Alors, ils ont pris le Covid, ils ont pris le gilet jaune. Ah, mais bon, c'est pas grave, on va pouvoir attendre 5 ans. Moi, je peux attendre. Il y a des gens de la classe moyenne.
Justement,
qui
on en débat.
Il faut que vous admettiez. Il faut que vous admettiez que si on est endetté, c'est une partie de notre souveraineté que nous perdons. Avoir de la dette, c'est se mettre dans les bras, dans les mains de ceux qui nous prête de l'argent. Et c'est pas possible à terme. C'est possible quand on peut trouver du financement, mais ça risque de ne plus l'être d'ici quelques années si on ne fait pas un effort de réduction de cette demande de crédit. Donc, parce que sinon, on est foutu. On est pris par
rapport à... On va voir ce que vont dire les agences de notation.
On est en train, franchement, on est en train de ranger la vaisselle, de faire le ménage dans la maison, mais on met tout dans l'arrière-cuisine, c'est le bordel, mais on s'en occupe pas. Donc, l'administration, l'État, peut continuer de fonctionner, de faire son truc,
Non mais alors attendez, parce que trouver des économies c'est une chose, aller chercher la croissance ça en est une autre, et forcément c'est aussi un sujet de compétitivité, puisque pourquoi l'IRA américain marche aussi bien? Mais parce que ça prend 4 jours de s'implanter sur le territoire américain, et c'est 4 formulaires.
Mais
ça en fait partie, Benjamin.
On a mis 900 milliards de dollars, je veux dire, il y a l'histoire,
il y a les subventions,
mais il y a la masse.
Tous les patrons disent,
Benjamin, vous le savez aussi bien que moi, ça prend deux fois plus de temps de s'installer en France qu'en Allemagne. On a intérêt à simplifier tout ça pour une question de croissance.
On est d'accord. Je veux dire, il faut simplifier, nous sommes d'accord. La question, c'est qu'est-ce qu'on peut attendre de ça? Bon, c'est tout, c'est ça la question. Et ce qu'on peut attendre de ça, c'est zéro, ou extrêmement peu de choses par rapport à d'autres mesures. C'est ça le point. Maintenant, sur les questions de simplification, en tout cas pour ce qui concerne les grandes entreprises, il faut quand même bien avoir en tête que les grandes entreprises, pour de multiples raisons, elles savent se compliquer la vie par elles-mêmes, toutes seules. Je vais vous recommander un livre qui est paru il y a une quinzaine d'années, qui s'appelle « On a clear day, you can see the General Motors ». Par temps clair, vous pouvez apercevoir la General Motors. Tellement, je ne veux pas dire le mot, tellement c'est le bazar. Voilà.
Ça lui a pas réussi. Hein.
D'un autre côté,
Allez, pour conclure, Benjamin.
D'un autre côté, regardez les ennuis de Boeing. Force de vouloir simplifier, doubler, machin, etc. Aujourd'hui, ils n'ont plus un avion qui est autorisé de voler. Donc, il faut être prudent.
Avec les normes. Effectivement, fais pas n'importe quoi avec les normes. Ce sera le mot de la fin.
On est prudent aussi avec le timing, c'est le rappel d'ici.
Provisoire. Allez, provisoire, la mi-temps.
BFM Business présente... Good evening business, les experts du soir.
19h50, 7h35 sur BFM Business. Jean-Marc Sylvestre, Franck Dedieu et Benjamin Coria sont avec nous. On va parler d'un chiffre plutôt positif, une fois n'est pas coutume, puisque l'emploi se porte bien. L'enquête annuelle de France Travail, publiée ce matin avec le Crédoc, nous dit que les intentions d'embauche dans le privé pour 2024 restent à un très haut niveau, alors qu'il n'y a quasiment plus de croissance dans le pays. Comment est-ce qu'on explique ça, Franck Dedieu?
Ah, ça, c'est l'énigme économique d'il y a 6 mois. Alors, bon, pour vous, c'est pas une énigme, Jean-Marc, puisque vous êtes un...
Jean-Marc va nous apporter la réponse à l'énigme.
Économique brillant. Mais comment expliquer cela? C'est vrai que les gens, on leur dit, bon, on a tout le temps pensé qu'il y avait une sorte de lien obligatoire entre la croissance et la baisse du chômage. Il se trouve que là, les deux...
Bah, c'est assez logique.
Voilà. Mais les deux, baisse de croissance stagnante et
d'emploi
qui se porte bien, cohabitent. Je crois que c'est lié on a des gros problèmes de gains de productivité, de sorte que les gens qui entrent sur le marché du travail ne sont pas forcément ceux qui sont les plus productifs. Ouais. Et puis, il y a une question, on en reviendra toujours à cette question plus macroéconomique, c'est qu'on a cru beaucoup, lorsqu'il y a eu de l'inflation, à cette fameuse boucle salaire-prix, où on se disait, on ne va pas augmenter les salaires pour ramener les pouvoirs d'achat.
Qui n'a jamais eu lieu.
On n'a pas eu ça.
Et ça n'a jamais eu lieu. Mmh. Et donc, à partir du moment où vous avez quelque part, l'idée de maintenir des salaires qui sont dépressifs, alors même que la pression sur le marché du travail autoriserait des augmentations de salaire, que vous n'avez pas suffisamment de gains de productivité, eh bien, vous avez une cohabitation assez étrange, assez singulière, entre un marché du travail qui se porte plutôt pas mal, encore que ça serait à relativiser, et puis une croissance très atone.
Benjamin Coria, c'est étrange.
Non, mais moi, si j'ai bien lu le rapport, en tout cas ce que j'ai pu en trouver, c'est les prévisions d'embauche.
Oui, ah bah oui.
Bonnes.
2,8 millions de projets de recrutement en 2024.
Empiriquement, 80% des intentions d'embauche se concrétisent.
Oui, la première chose à dire, je veux pas jouer les troubles faits, mais il faut bien savoir de quoi on parle. Alors, les prévisions d'embauche sont bonnes, mais elles sont en retrait de 22% par rapport à l'année dernière.
Bon. C'était 3 millions l'an dernier, 2,8 millions cette année. Ouais. On reste à haut niveau, c'est ça qu'on veut dire. Quoi. Voilà, ça recule, mais on reste à haut niveau.
C'est plus qu'avant le Covid. Les chiffres que j'ai lus, c'est que c'est en retrait de 22%. Bon. Donc, c'est très bien qu'elles se maintiennent. Alors, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ça. Ce qui a été dit par Franck tout à l'heure est tout à fait juste. Les emplois se créent pour l'essentiel, pour le moment, dans du service, dans lesquels la productivité...
Oui, c'est ça, parce que 2 projets de recrutement sur 3, c'est dans les services.
Eh bien oui, dans lesquels la productivité est extrêmement faible. Et donc, je veux dire, même avec une croissance qui n'est pas très grande, ça absorbe davantage de gens. Ça, c'est un point très important. Deuxièmement, s'agissant de... prévision d'emploi, on sait que les entreprises qui ont besoin notamment de main-d'œuvre qualifiée ou de main-d'œuvre très peu qualifiée compte tenu des conditions de travail et de salaire ne trouvent pas de gens. Ouais. On peut imaginer, moi j'en sais rien, puisque je n'ai pas vu le rapport suffisamment en détail et je ne sais pas s'il va là-dedans. On peut se demander si une partie n'est pas un simple report d'une main-d'œuvre qui n'arrive pas à trouver. Je veux dire, un certain nombre d'entreprises, et je crois que c'est pas faux, se plaignent du fait qu'elles n'arrivent pas.
Alors, ce que dit l'étude, c'est qu'on a entre 300 000 et 500 000 postes l'an dernier qui n'ont pas été pourvus.
Voilà. Ouais. Donc, une partie, c'est du report. En tout cas, moi, l'explication que je vois, parce que la croissance se porte pas si bien que ça, pour le moment.
Non, mais justement, c'est la question qu'on pose. On a l'impression que, quelle que soit la conjoncture, l'emploi résiste en France.
Oui, parce que
et on essaie de comprendre pourquoi.
Moi, les deux explications que je vois, c'est celle qui a été donnée sur la productivité et les services. Et la deuxième, c'est une difficulté à recruter qui perdure dans un certain nombre de métiers parce qu'il n'y a pas soit la main-d'œuvre qualifiée, soit des conditions d'accueil
pour la main-d'œuvre moins qualifiée, qui soit suffisamment attractive. Notamment, on sait qu'après le Covid, il y a un certain nombre de gens qui ne sont plus d'accord pour reprendre les boulots qu'ils avaient avant.
Oui, oui, absolument. Et puis, il y a aussi une question de secteur, hein, parce que construction, évidemment, ça se porte très mal. Mais en revanche, les activités financières et d'assurance tirent très bien leur épingle du jeu. Jean-Marc Sylvestre, vous avez une autre explication.
Non, je suis d'accord sur la première explication.
Avec Benjamin.
Le marché de l'emploi est tendu.
Ça arrive, hein,
c'est une tension de pénurie. Le marché de l'emploi est en pénurie. On est en pénurie d'emploi, en qualité et en quantité, et dans les régions, il y a d'adéquation. Mais sur la deuxième explication, c'est-à-dire l'énigme qui inquiète Franck Ledieu, je crois qu'elle est totalement influencée par sa culture keynésienne. Je reviens à ma
Ah, il en veut à Keynes, hein.
Parce que c'est pas la croissance qui crée l'emploi. C'est l'emploi qui crée la croissance.
Ça, c'est la fameuse théorie, on pourrait en parler pendant des heures.
C'est l'emploi qui crée l'emploi. Si nous avons de l'emploi de qualité, de l'emploi innovant, de l'emploi qui va permettre de créer des activités, on va faire de la croissance.
Mais
et on se trompe en pensant que l'emploi est faible alors que la croissance...
C'est-à-dire que l'emploi en ce moment n'est pas de très bonne qualité vu le niveau de la croissance.
L'emploi n'est pas assez de bonne qualité et il est insuffisant dans certains secteurs. Et si on avait de l'emploi, si on avait des formations qui conviennent pour faire un emploi, on pourrait impacter.
La réponse de Franck Ledieu.
La formation, c'est extrêmement important. Mais Jean-Marc, vous croyez...
Donc vous voulez de la croissance, mais la croissance, elle ne tombe pas.
Le laisse répondre, Franck, allez-y.
Je suis modestement l'exégèse de Jean-Marc Sylvestre, mais quand même, il me coupe, même à ce moment-là.
Allez-y.
Non, mais c'est qu'il croit.
Il croit.
À la vérité du marché. Mais il y a quand même un marché...
Mais je n'ai pas parlé de marché.
Alors attendez, laisse Franck aller jusqu'au bout de la réflexion.
Le marché du travail.
Oui.
Et si vous avez des pénuries de demande, effectivement, nonobstant la question de la qualification, eh bien ça devrait augmenter les salaires. Ouais. S'il y a une augmentation des salaires, moi, je veux bien croire à la politique de keynésienne, de cause à effet, mais normalement, vous devriez avoir rapidement un peu de croissance.
Eh bien, vous avez eu des augmentations de pouvoir d'achat depuis
deux ans. Il n'y a pas eu suffisamment d'augmentation de salaire, en particulier pour les classes moyennes, qui sont quand même le gros du marché des employés et des salariés. Ouais. Donc, je pense que l'énigme vient aussi du fait que nous faisons coïncider des pénuries d'emplois qui n'augmentent pas les salaires lorsque c'est des emplois relativement qualifiés.
Regardez la façon dont est calculé votre indice de pouvoir d'achat. Il inclut tout ce qui se passe dans la fonction publique et dans les retraites, ce qui fait qu'il tire l'analyse vers le bas. Si vous regardez ce qui se passe dans les entreprises, notamment dans les grandes entreprises du CAC 40, vous avez des augmentations de salaires qui sont très importantes, y compris et même dans les entreprises de PME. Parce que l'entreprise qui est dans le digital, l'entreprise qui a besoin de main-d'œuvre, elle paiera. La restauration, elle a fait un effort pour pouvoir trouver des gens pour pouvoir servir dans les restaurants, sinon elle fermait les restaurants.
Non, mais alors d'accord, mais est-ce que ces chiffres marquent un changement conjoncturel? Parce que en 2022 et en 2023, les intentions d'embauche étaient portées par de nouvelles activités, alors qu'en 2024, c'est le surcroît d'activités qui a pris le relais. Benjamin.
Oui, enfin, c'est ce que dit la statistique. Et effectivement, ça, c'est moyennement encourageant. La question de... qu'on débat, il y a aussi ce qui a été évoqué à un moment, le fait que le rattrapage en termes de pouvoir d'achat par rapport à l'inflation, il a été très 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 inégal. Hein, ça veut dire que dans les grandes entreprises,
on est tous d'accord.
On s'en est tiré, et dans beaucoup d'entreprises, pas du tout. Et donc, de ce point de vue, cet abaissement relatif du coût du travail appelle à recruter du travail. Pour les économistes, c'est élémentaire. Donc, c'est encore un élément conjoncturel. Ceci dit, on y verra plus clair quand on aura le taux de croissance de 2024. Mais moi, je suis le taux de croissance de l'emploi ou l'évolution de l'emploi. Mmh. Moi, je ne suis pas convaincu que ces hirondelles annoncent un véritable printemps. On va voir. Hein.
C'est sûr que les créations d'emplois en net sont attendues à un niveau beaucoup plus faible que ce
qu'on
était.
Oui,
c'est normal. On sortait d'un effet de rattrapage post-Covid.
Non, mais c'est pour ça qu'on ne peut pas raisonner sur un mois. On verra plus clair dans quelques mois. Moi, je ne sens pas, mais j'avoue que
votre intuition d'économiste,
c'est subjectif. Oui.
je sens pas un
changement. Mais alors, le mot de la fin quand même là-dessus, on voit qu'on parle encore et toujours de métiers en tension et de pénurie. Est-ce que ça donne du grain à moudre au gouvernement pour sa nouvelle réforme de l'assurance chômage? Est-ce que vous croyez qu'on va résorber une partie de ces pénuries en durcissant les conditions de l'assurance chômage?
Oui, sur les règles d'indemnisation, on a fait des demandeurs d'emploi qui ne seraient pas assez incitatives.
Moi, j'en crois pas un mot. Hein. J'en crois pas un mot. Je pense que ce qui est implicite là derrière, c'est que les chômeurs ont choisi de l'être et que en durcissant le régime, comme par miracle, ils vont se précipiter sur le marché de l'emploi et qu'ils vont trouver de l'emploi. Alors là, je prends date. L'effet de cette mesure sur la création d'emplois, il sera absolument nul. Absolument nul. Je prends date. Okay. Je prends date.
C'est très clair, Jean-Marc.
Non, j'ai pas beaucoup d'avis. Le seul avis que j'ai, c'est que je regrette que le gouvernement ait repris la main sur cette négociation et qu'il empêche le système.
Le paritarisme.
De fonctionner.
D'accord avec ça.
Mais je veux dire que les partenaires sociaux font pas un gros effort non plus pour récupérer le pouvoir. Ils pourraient le faire.
Franck de Dieu.
Moi, je me demande si les Français, finalement, à l'inverse de nous, ont peut-être très bien compris la question de cette énigme entre croissance faible et pénurie sur le marché du travail, parce que c'est une question, hein, je voudrais pas paraître trop péremptoire, mais lorsque le gouvernement a largement légiféré et parlé de plein emploi, moi j'appartiens à une génération où c'était le symbole soit de la crise, soit de la reprise, soit de l'expansion. On appréhendait l'économie et même plus généralement notre future vie de consommateurs et de producteurs à l'aune de ce seul critère. Rappelez-vous, François Hollande en a fait même l'alpha et l'oméga de toute politique. Aujourd'hui, pourquoi, alors qu'on s'approche du plein emploi, à peu près.
Enfin, on a mi-chemin. On commence à s'en éloigner. Hein.
Mais oui,
c'est ça. Mais, on a une courbe
inverse. Résultat d'éloignement là.
Depuis 7 ans, le chômage a baissé. Pourquoi finalement? Si le plein emploi était l'alpha et l'oméga d'une société consumériste d'aisance, pourquoi ça ne se traduit pas dans le moral des Français? Normalement, on devrait dire, si on avance vers le plein emploi, on devrait être tous à faire la fête, à consommer, à moins épargner, etc.
Non, mais en même temps, Franck, on a une guerre aux portes de l'Europe, on a eu une crise inflationniste, on a eu la crise de l'énergie.
Vous voyez bien.
Le moral des Français est plombé par tout ça.
Vous voyez bien que cette martingale de mots composés, plein emploi, qui, il y a quelques années, aurait été véritablement un sésame. Aujourd'hui, ça ne prend plus dans l'opinion. Ça ne prend plus.
Ça, c'est vrai.
C'est un sujet de sociologie politique.
Le vrai marqueur, c'est le taux d'épargne. Le taux d'épargne des Français n'a jamais été aussi élevé historiquement. On est même champion du monde. On est à 18 ou 19% du revenu disponible. Vous vous rendez compte? 19%.
Là, on parle de la tendance macroéconomique. On va finir sur un cas bien particulier qui fait la une des journaux depuis des mois, c'est Casino. Puisque là, ça y est, on est fixé sur l'ampleur des dégâts. Le plan social a été annoncé ce matin aux salariés. Il y aura entre 1200 et 3200 suppressions de postes dans le groupe. Que vous inspire cette déconfiture d'un ex-fleuron français, les uns et les autres?
Premier point, qu'une entreprise, c'est toujours fragile. Et il y a tendance de beaucoup de patrons d'entreprise et même de beaucoup de salariés ont tendance à penser que une entreprise c'est immortel. Ben c'est pas immortel, ça s'écrase et Casino s'est écrasé vraiment et a fait beaucoup de bruit. C'est dangereux pour les salariés puisqu'ils vont payer combien, je crois 3-4 000 de suppression d'emplois. C'est dangereux pour les actionnaires parce que les actionnaires ils sont ramassés complètement.
On va commencer par Jean-Charles.
Et il y a un certain nombre de banquiers. Oui, mais c'était coté en bourse tout ça. Hein. Donc il y a beaucoup d'actionnaires qui vont. Bon, ça c'est la première remarque. Et il faut jamais oublier que c'est très très fragile. Une erreur de stratégie, une erreur d'appréciation. Et je pense que la responsabilité du conseil d'administration et de Jean-Charles Naouri, elle est importante, même si la conjoncture ne prête pas. La deuxième réflexion, c'est que je m'aperçois que le secteur de la distribution est sans doute en train de changer de paradigme.
Ça c'est clair.
Et qu'il ne peut plus aujourd'hui par la taille fabriquer de la productivité qui lui permettrait de financer sa croissance. La France a une particularité, c'est qu'elle a inventé un secteur de la distribution qui n'est pas la grande entreprise. C'est un secteur de la distribution qui sont une assemblée d'indépendants.
Ah ben ça dépend, vous avez les deux modèles.
Chez Leclerc.
Oui, vous avez les deux modèles, les franchisés et le groupe intégré.
Les franchisés, les indépendants, ils se débrouillent. Parce que la productivité est sans doute faite au niveau de la centrale d'achat et que chaque type, dans son magasin, eh bien, il gère sa boutique avec des critères de management beaucoup plus rigoureux que
oui. s'il est. Alors, ceci dit, 1300 à 3200 suppressions d'emplois potentielles. Je vous rappelle qu'on parlait du double, on parlait de 6000 suppressions d'emplois avant la reprise en main des nouveaux actionnaires. Benjamin Coria, est-ce que vous dites que ce plan social, c'est indispensable pour maintenir le groupe en vie?
Bon, moi, j'ai deux remarques. La première, c'est par rapport à ce que dit Jean-Marc, et là, je suis en désaccord total. Oui, bien sûr, la vie économique, elle est risquée, etc. Et donc, aucune entreprise n'est assurée de vivre. Mais dans le cas de Casino, d'une certaine manière, c'était écrit, hein, parce que c'est un groupe qui a été acheté et construit
sur
de la dette, surtout, en portant la dette sur les entreprises.
Et une responsabilité, et des banques et des commissaires aux comptes.
C'est un modèle absolument catastrophique et qui fait florès et qui correspond à la financiarisation de l'économie et à cette économie libérale que Jean-Marc aime tellement.
Et qui a été porté par des enfants de la gauche.
On n'aura pas le temps, c'est un autre débat.
Ça m'est égal. C'est des instruments typiques du capitalisme financier et du néolibéralisme, et ça s'est effondré. Et vous êtes placé pour savoir qu'il n'y a pas que cette entreprise qui est concernée, il y en a d'autres qui vont suivre et qui sont en train de suivre. Donc je veux dire, ça fait partie de la faillite de la période néolibérale qu'on vient de traverser et que Jean-Marc voudrait tellement protéger.
C'est un LBO qui prolonge.
Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les salariés payent la note. Bon, alors, ce qui est très inquiétant, moi je ne cache pas que je suis très inquiet, parce qu'on commence par annoncer entre 1200 et 3000, bon, il y a 300%, pour commencer. Après, on verra. Donc, il y a vraiment lieu de s'inquiéter.
C'est parce qu'il y a 30 super et hypermarchés.
Mais oui, on ne sait pas très bien qu'est-ce qu'ils vont devenir. Oui, d'accord. Mmh. Mais je veux dire, on commence déjà par provisionner, si je peux dire, hein. Et on annonce. Donc, voilà. Moi, je suis très, très énervé. Je suis très en colère parce que.
Vous voudriez qu'on fasse des magasins d'État?
Non. Je voudrais qu'on ne permette pas ces pratiques de rapine qui consistent à acheter des groupes entiers sur de la dette et à faire porter la dette sur l'entreprise, c'est-à-dire en vérité sur les salariés pour l'essentiel.
Oui, alors d'accord, Benjamin.
C'est des choses qui pourraient être réglementées.
Mais la nouvelle direction confirme quand même 1,2 milliard d'euros qui vont être réinvestis sur 3 ans.
Forcément.
Oui, mais donc on voit bien qu'il y a une volonté quand même de maintenir et le groupe en vie et les emplois.
Oui, Franck. Moi je suis assez d'accord avec vous. Normalement, vous avez tous les deux dénoncé les excès de la financiarisation sur la dette. Moi j'y verrais, en plus, je partage vos avis, une sorte de double symbolique économique, financière, mais aussi politique dans ce cas Casino. Parce que d'abord, c'est Casino, il y avait quelque chose de très populaire aussi. Quand même, hein. Et la ville de Saint-Étienne va payer un très lourd tribut, qui est une ville aussi dont on a beaucoup parlé avec le club de foot, etc.
Alors Daniel Kretinsky s'est engagé à ne pas fermer le siège et à maintenir le plus d'emplois à Saint-Étienne.
Il perd un tiers des emplois.
Un tiers des emplois. Et puis, deuxièmement, vous avez symboliquement les magasins qui ont vocation à rester et à se développer sont des magasins qui ne sont pas véritablement fréquentés par la classe populaire. Naturalia, Monoprix, ce sont des Franprix, ce sont plutôt des magasins. Donc il y a une sorte de double symbolique financière et puis politique aussi avec Saint-Étienne et puis c'est quand même un bout de France, ça aussi.
Le message est passé, il est très clair. Merci à tous les trois. Ce sera le mot de la fin. Place aux arrêts de jeu, l'extra time de Good Evening.
Oui.
Vous avez les uns et les autres 30 secondes.
Voilà, on le répète, c'est 30 secondes, Jean-Marc.
Au coup de foudre.
Le mien ?
Oui, on commence par vous. Alors attention, hein, on rappelle qu'il y a une alerte, une alarme qui se met en place.
Ah oui, un petit coup de gueule sur Nicolas Terry, qui est le président du Crédit Mutuel et qui s'en va et qui renonce à son chèque de départ.
Oui.
2 millions 4.
Ok.
Il faut vraiment qu'il ait quelque chose à se reprocher parce que.
Attendez, on peut lui laisser le bénéfice du doute, non ?
Carlos Tavares n'a pas renoncé à sa prime de salaire.
Mais parce que l'argent n'est pas le moteur forcément de tout le monde.
Non, je trouve que c'est pas lui qui s'est fixé lui-même. Il a un conseil d'administration et le Crédit Mutuel, ça appartient aux mutualistes. Ils ont dû parachever ce. Non, je trouve que c'est un très mauvais exemple.
Bah, de mettre l'intérêt général avant ses intérêts personnels.
Mais c'est pas ça. Là, il ne sait pas.
C'est intéressant.
Bon, vous dites que c'est de la démagogie, quoi. C'est pour résumer. Voilà. Benjamin Coria.
Moi, j'ai de la suite dans les idées. Alors, au cours d'un précédent, une précédente émission, j'avais fait un coup de gueule sur le fait que la Macronie et les représentants français au Parlement européen avaient bloqué la passation d'une loi en ce qui concerne la reconnaissance du statut de salarié par les gens des plateformes. Eh ben, ils ont été battus parce que là, l'Union européenne vient de voter une loi qui est pas merveilleuse, mais sur le principe, elle permet de beaucoup faire avancer les choses en introduisant la possibilité d'une présomption légale de salariat et donc qui va permettre à 5 millions de libéraux, de, s'ils le souhaitent, de passer salariés. Voilà.
Et pour vous, Franck ?
Alors moi, c'est un peu triste, c'est le redressement judiciaire de Duralex, le Verrier, le célèbre Verrier. Et c'est vrai que on pouvait imaginer que, si vous voulez, il fallait payer des factures énergétiques qui étaient très 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 élevées et en forte augmentation et qui ont eu raison de la santé de ce groupe. Pour le gouvernement, il y a effectivement l'idée d'un coût économique, mais il y a aussi l'idée d'un coût politique. C'est-à-dire que, quelque part, il faut pouvoir payer parfois, sauver des fleurons qui ont une valeur symbolique. Moi, je me rappelle, à la cantine, les verdures
Alex. C'était notre enfance.
C'était notre enfance. Oui, et pour la plupart des Français, c'est notre enfance. Et les Français, eh bien, ils ne regardent pas qu'ils n'ont pas un bilan comptable lorsqu'ils parlent de Duralex.
Ah oui.
Ils ont des réminiscences du passé.
Alors, il
leur
a
réalisé
un vrai casino mort.
C'est dit.
Pleure sur Duralex, il a raison.
Le message est passé. Merci, merci, merci à tous les trois. Franck Dedieu, Benjamin Correa, Jean-Marc Sylvestre. Et merci à Audrey Tcherkov.
Mais merci à vous, Tom Sass, votre nom de scène sur les réseaux sociaux.
Oui.
Merci à vous qui nous avez regardé. Écoutez, si vous voulez retrouver le débat, c'est en replay, ça s'affiche sur vos écrans. Sinon, c'est bfmbusiness.com et en podcast. Si vous voulez aussi connaître l'avenir radieux des pétroliers, eh bien, c'est Marianne et c'est en kiosque. On vous dit aussi pourquoi on ne danse plus. Et c'est une question importante.
Ah, ben c'est une question très importante.
Absolument.
Voilà, la réponse dans Marianne. Merci à tous. Dans un instant, Frédéric Simotel. Tech & Co, toute l'actu de la tech en direct sur BFM Business jusqu'à 21h30 et 21h30, 22h. BFM Crypto à Moreton Québec. À demain.
À demain.
Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.